collection Coffre à gants présente Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Une narration de Jean Leclerc. Introduction.
Dans tous les chapitres de ce livre audio, il est question du secret qui a fait la fortune de centaines d'hommes sur la vie desquels je me suis longuement penché. C'est Andrew Carnegie qui, au début du XXe siècle, attira mon attention sur cette question. Je n'étais qu'un étudiant, lorsque l'adorable vieil Écossais aux cheveux blancs me parla, une lueur joyeuse dans les yeux, essayant de voir si j'avais saisi la pleine signification de ce qu'il m'avait dit. L'idée de M. Carnegie était de mettre la formule magique, grâce à laquelle il avait gagné une magnifique fortune, à la portée de tous ceux qui n'avaient pas le temps de la chercher. Il espérait que je pourrais la tester et la corroborer avec des expériences d'hommes et de femmes, de professions et de milieux très divers.
Le secret parle à celui qui l'écoute.
Si vous êtes prêt à l'utiliser, vous découvrirez ce secret au moins une fois par chapitre. Je voudrais avoir le plaisir de vous dire comment vous saurez que vous êtes prêt, mais cela vous priverait d'une grande partie du bénéfice que vous retirez d'une découverte personnelle. Ce secret fut largement utilisé par le président Wilson durant la Première Guerre mondiale. Il était dissimulé dans l'entraînement que reçut chaque soldat avant de partir pour le front. Le président Wilson me confia qu'il fut d'une aide très précieuse lorsqu'il fallut trouver les fonds nécessaires à la guerre. Il est un fait singulier concernant ce secret, c'est que ceux qui le connaissent et l'utilisent se trouvent irrémédiablement entraînés vers le succès. Le secret dont il est question ne s'acquiert que si l'on paie le prix, bien bas en comparaison de sa valeur. Ceux qui ne le cherchent pas ne le posséderont jamais. Il ne peut être ni vendu, ni acheté.
Chapitre 1. Une pensée est un fait.
Une pensée est véritablement un fait puissant lorsqu'elle allie un objet définitif, la richesse par exemple, la persévérance et le désir. Prenons un exemple précis. Il y a quelques années, un désir naissant dans le cerveau d'Edwin C. Barnes, devenir l'associé du grand Edison, travailler avec et non pour l'inventeur. Mais comment transformer ce désir en réalité? Barnes ne connaissait pas Edison, et de plus, il n'avait pas assez d'argent pour s'offrir le train jusqu'à East Orange, dans le New Jersey. Ces deux obstacles qui auraient suffi à décourager la plupart des gens, Barnes allait les surmonter par son obstination et sa volonté.
Edison le regarda.
Il se présenta au laboratoire d'Edison et déclara sans détour qu'il venait faire affaire avec lui. Plus tard, relatant cette première rencontre, Edison raconta « Il se tenait debout devant moi pareil à un vagabond. Mais quelque chose dans l'expression de son visage laissait pressentir qu'il ne s'en irait pas sans avoir ce qu'il voulait. Des années d'expérience m'avaient appris qu'un homme qui désire une chose à un point tel qu'il est capable, pour l'obtenir, de jouer tout son avenir sur un simple coup de dé, et sûr de gagner. Les mois passèrent, apparemment rien ne permettait à Barnes de se rapprocher du seul but qui comptait à ses yeux. Cependant, deux facteurs essentiels se précisaient en lui. Son désir de devenir l'associé d'Edison s'intensifiait. Il se sentait prêt à cette collaboration et il était décidé à le demeurer jusqu'à ce que son désir se réalisa. Enfin, l'occasion qu'il attendait se présenta, mais pas du tout comme il l'avait imaginé. Edison venait d'inventer une nouvelle machine de bureau, connue à l'époque sous le nom de machine à dictée d'Edison. Ses employés, peu enthousiastes et persuadés qu'elle ne trouverait jamais acquéreur, hésitaient à la vendre. Barnes sut immédiatement qu'il le pourrait. Il le dit à Edison. Il le laissa courir sa chance. Il la vendit si bien qu'Edison lui en confia le marché pour tout le pays. Cette association rendit Barnes très riche.
L'homme qui abandonna.
Pourquoi échouons-nous dans nos entreprises? Le plus souvent parce que, découragés, parce que nous croyons être un échec définitif, nous abandonnons la partie. À l'époque de la ruée vers l'or, un oncle de R. Hugh Darby partit vers l'ouest faire fortune. Après plusieurs semaines de labeur incessant, ses efforts se virent récompensés. Il avait trouvé le métal tant convoité. Il lui fallait maintenant du matériel pour exploiter le filon. Il referma consciencieusement la mine et retourna chez lui, à Williamsburg, dans le Maryland, pour informer ses parents et amis de sa trouvaille. À eux tous, ils parvinrent à réunir de quoi acheter tout le matériel nécessaire qui fut embarqué aussitôt à destination de l'Ouest, pendant que l'oncle retournait travailler à la mine, en emmenant cette fois son neveu, Darby. Le premier wagonnet chargé d'or fut acheminé.